C'est arrivé cette semaine.
9h-10h.
David Abiker.
Bonjour et bienvenue dans cette arrivée cette semaine. Internet est-il devenu un bouillon de culture pour candidats au terrorisme? Réponse de Nicolas Arpagian de l'Institut des Hautes Études de la Sécurité. Y a-t-il un avant et un après pour la société française à la suite des manifs de dimanche dernier? J'interrogerai le sociologue Jean Viard. Elle chantera le 23 janvier au Châtelet avec un orchestre de policiers. C'est Juliette Noureddine. Mais tout de suite une question. La République sort-elle renforcée ou affaiblie des 10 jours qui viennent de s'écouler? Et c'est Jean-Pierre Chevènement qui répond.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
David Abiker.
Je l'ai déjà rappelé, comme vous tous, j'ai des amis français de confession et de culture musulmane. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun.
Une République fraternelle, ouverte, généreuse. Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation Respublica, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait du discours de Manuel Valls, mardi à l'Assemblée, ovation debout des députés. La question que chacun se pose maintenant, Jean-Pierre Chevènement, c'est maintenant, on fait quoi ?
Il faut pérenniser le sursaut républicain qui s'est manifesté le 11 janvier. Le peuple français s'est dressé, quasi unanime, pour proclamer son refus du chantage à la peur, pour proclamer son attachement à un mode de vie fondé sur la liberté qu'on appelle la République. Donc il s'agit de promouvoir une vraie refondation républicaine. Et cela dans la durée, parce que, naturellement, ce n'est pas le premier attentat terroriste qui frappe la France, mais il y en aura d'autres encore. C'est une affaire de longue haleine. Il y en a pour des années, voire des décennies. Donc il faut s'armer cette perspective.
Jean-Pierre Chevènement, vous avez été ministre de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, de la Défense. C'est aussi pour cela qu'Europe 1 vous a invité ce matin. 3 ministères. Commençons par l'école. Vous avez été reçu par Najat Vallaud-Belkacem mercredi. Vous lui avez dit quoi ?
Pour aller vite, que l'école est l'outil de transmission des connaissances, mais aussi des valeurs républicaines, qu'elle a pour tâche de faire aimer la France. Car comment pourrait-on intégrer des jeunes à la France si la France ne s'aime pas elle-même? Et cela passe par la littérature, les grandes œuvres, l'histoire de France, un récit national lisible alors qu'il a été détruit, pour ce qui concerne au moins le XXe siècle. Bref, un pays mentalement, moralement, intellectuellement redressé.
La question de l'instruction civique dont on rappelle les mérites, alors que la France est championne d'Europe de l'instruction civique en termes d'horaires d'enseignement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vaut le coup? Vous qui proposiez il y a 30 ans plus de Marseillaise, plus d'écriture par cœur de la Marseillaise à l'école, entre autres.
Bon, je veux simplement rappeler à un député que la Marseillaise faisait partie du répertoire scolaire. Ce faisant, j'ai rappelé aux enseignants qu'ils devaient l'apprendre à leurs élèves. Et je l'ai réintroduit. L'instruction civique, à l'école primaire et au collège.
Ça n'a pas suffi, qu'est-ce qu'on va faire
de
plus ?
Ça n'a pas suffi parce qu'on étudie les institutions locales, on n'étudie pas la République et le corps de principes exigeants qu'elle représente. Par exemple, la République, elle fait confiance aux citoyens formés par l'école, qui délibèrent dans un espace public, délivrer des dogmes, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Bien, tout cela, il faut le faire comprendre, pour que les citoyens puissent manifester leur civisme et pour que les hommes politiques soient à la hauteur de l'État. Je dois dire que le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se sont montrés tout à fait à la hauteur dans les journées que nous venons de vivre.
Bernard Cazeneuve, vous l'avez vu ce matin, vous lui avez dit quoi ?
Je lui ai dit que naturellement, il fallait prendre toutes les mesures qui nous permettrait d'assécher le terreau sur lequel se développe le terrorisme. Donc il faut évidemment ne pas faire d'amalgame avec les peuples musulmans qui ont leurs problèmes. Il y a des conflits qui sont naturellement connectés avec ce qui se passe chez nous. Il y a chez nous, dans les banlieues, des problèmes qui sont, je dirais, des ratés de l'intégration, mais il ne faut pas accuser la République. C'est le défaut de République qu'il faut mettre en cause, et non pas la République elle-même. Et quand j'entends certains prôner le multiculturalisme, je pense qu'ils sont complètement à côté de leur pompe.
C'est de l'angélisme ?
C'est de l'angélisme, et c'est ne pas voir que ce qui est important aujourd'hui, c'est de favoriser ce qui unit, ce qui rassemble, et non pas ce qui différencie, ce qui divise.
Jean-Pierre Chevènement, il y a des années, vous évoquiez les sauvageons. Tout le monde vous était tombé dessus à cause de cette expression. Une infime partie des sauvageons a mal tourné. Est-ce que ça veut dire que la prévention a échoué ? Est-ce que ce traitement social, cet accompagnement scolaire, ce qui se fait dans les quartiers, ça a été un échec ou il faut en faire plus, il faut continuer ?
Mais écoutez, les sauvageons, c'est un défaut d'éducation que je pointais. C'était des jeunes abandonnés à eux-mêmes devant le poste de télévision et qui pouvaient tuer. Parce qu'ils confondaient le virtuel à le réel. Donc les sauvageons ont grandi, on voit ce que ça donne. Donc je pense que c'est toujours l'école, l'éducation, c'est le rôle magnifique des maîtres qu'il faut restaurer dans leur autorité et dans la considération dont ils bénéficient, y compris d'ailleurs pécuniairement.
Jean-Pierre Chevènement, vous parliez des pays de tradition musulmane. Une partie d'entre eux, depuis 72 heures, montre qu'elle est à nouveau choquée par les unes de Charlie Hebdo, la dernière en tout cas, y compris chez les alliés occidentaux qui hésitent, pour rendre compte de l'actualité française, à publier cette une de Charlie Hebdo. Est-ce que la laïcité à la française, celle que vous défendez depuis votre entrée dans la vie politique, est-ce qu'elle n'est pas mal comprise, mal interprétée ? Est-ce qu'elle n'est pas considérée comme intolérante par le reste du monde ? Est-ce que notre universalisme n'atteint pas là ses limites ?
Eh bien, je pense exactement le contraire. Je pense qu'il faut distinguer d'abord la liberté d'expression, que rien ne doit entraver. C'est cela, la République. Chacun est libre de s'exprimer. Mais la laïcité, c'est autre chose. La laïcité, c'est la distinction de la religion et de l'espace commun qui est régi par la politique. La laïcité, c'est la confiance faite à la raison humaine pour déterminer l'intérêt général, indépendamment de l'empire des dogmes. Et par conséquent, Charlie Hebdo a le droit de faire ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. Mais dans l'école, un professeur de dessin n'aurait pas le droit de faire la caricature de Mohamed. Rappelez-vous la lettre de Jules Ferry aux enseignants, 1883, si je me souviens bien. Vous êtes chargé de l'éducation morale, mais vous devez toujours vous interroger sur le fait que ce que vous allez dire ne doit pas blesser. Non pas seulement la conscience de l'enfant, mais la conscience de ses parents. Et si vous pensez que ce que vous allez dire pourrait blesser la conscience des parents de cet enfant, ne le dites pas, abstenez-vous. Donc voilà la laïcité. Elle n'est pas tournée contre les religions, pas du tout. Mais c'est une belle tradition dont nous pouvons nous enorgueillir. D'autres pays d'ailleurs l'ont pratiquée, le Mexique, la Turquie, la Tunisie. Et si la Tunisie est sortie d'une certaine manière par le haut de la première des révolutions arabes, ça tient peut-être à l'héritage laïque que lui avait laissé Bourguiba.
Jean-Pierre Chevènement, vous avez été ministre de l'Intérieur. Là encore, la semaine a été riche en propositions, avec un débat qui s'esquisse. Plus de moyens pour le ministère de l'Intérieur ou plus d'Europe en matière de sécurité intérieure. Quelle est votre vision de ce débat ?
Alors d'abord, l'axe stratégique, c'est assécher le terreau sur lequel le terrorisme prospère. C'est un problème de politique générale, de politique étrangère, de politique intérieure. Il n'y a aucun domaine qui ne soit concerné, y compris la politique économique, y compris la politique européenne, qui nous a engagés dans une stagnation de longue durée. Quand on voit les résultats, 3,5 millions de chômeurs, ça touche particulièrement une jeunesse précarisée. Vous avez des taux de chômage qui dépassent 40% dans certaines villes. Maintenant, les moyens du ministère de l'Intérieur, il a sur le plan législatif beaucoup de moyens. Depuis la loi de 1986 qui centralise les poursuites, les enquêtes, les jugements, hein, et qui donne satisfaction. Elle a été améliorée à diverses reprises et pas plus tard que en 2014 suite à un projet de loi qu'a porté Bernard Cazeneuve.
Donc, besoin d'un Patriot Act, de moyens supplémentaires législatifs ?
Non, pas besoin d'un Patriot Act, parce que nous devons nous défendre par les moyens du droit. Mais nous avons quand même des procédures tout à fait je dirais, adaptée, et peut-être peut-on faciliter les interceptions de sécurité pour tout ce qui relève du terrorisme. Il y a le problème du fichier des personnes transportées par voie aérienne. Compétence nationale, compétence européenne. Chacun comprend bien que la coopération européenne est nécessaire. Donc oui à la coopération européenne, mais le problème n'est pas là. La sécurité reste l'apanage du national, de la souveraineté nationale. C'est la responsabilité de l'État, du gouvernement. Et il faut qu'il fasse ce qu'il faut dans différents domaines, mais des plans de recrutement vont intervenir pour renforcer la DGSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Disons que le regroupement des RG et de la DST en 2008 n'a pas eu que des effets positifs. La présence des RG dans les quartiers, et surtout la police de proximité que j'avais créée, que M. Sarkozy a laissé dépérir. Tout cela, ça nous manque beaucoup, parce qu'il faut connaître le terrain. C'est tout à fait essentiel.
Faut-il rendre plus simple et moins contrainte la déchéance de nationalité pour les terroristes ?
Écoutez, l'idée, moi, ne me choque pas. Mais il y a une règle qui veut qu'on n'enlève pas toute nationalité un certain nombre de délinquants ou de criminels. Je ne sais pas s'il ne faut pas s'interroger là-dessus. Je vois que les Britanniques procèdent à la déchéance de nationalité sans se soucier outre mesure des conséquences que ça peut avoir. On dit qu'ils deviennent des apatrides. Mais les apatrides, ils sont protégés par la Convention de New York. Donc je ne comprends pas très bien les termes du problème. De toute façon, ce n'est pas l'essentiel.
Jean-Pierre Chevènement.
Ne nous égarons pas dans des diversions politiciennes.
Une dernière question, oui-non. Faut-il rétablir la conscription, proposition dont l'idée est partagée par une partie de la droite et le Front National ?
Est-ce que j'en étais moi-même partisan quand Jacques
Chirac
l'a supprimé. Mais on peut développer un service civique, le rendre obligatoire pour une durée évidemment courte. Mais il faut, je dirais, renforcer la cohésion de la nation française. Et il faut surtout que la France revienne au premier plan, parce que l'Europe se fait dans le prolongement des nations et pas en substitution à elle. C'est là l'erreur qui peut-être a été commise dans le passé.
Jean-Pierre Chevènement, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Respublica. Vous restez avec nous dans un instant. On parle Internet avec Nicolas Arpagian de l'Institut des Hautes Études de la Sécurité.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine, David Abiker.
Internet est-il un bouillon de culture pour les terroristes ? Faut-il mieux le surveiller au risque de menacer les libertés publiques et de rendre totalement inefficaces les efforts déjà engagés ? Nicolas Arpagian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique à l'Institut des Hautes Études de la Sécurité. À chaque fois que la sécurité des citoyens est engagée, on l'a vu ces derniers jours, il y a immédiatement un réflexe de surenchère sécuritaire qui vise Internet. Avant d'examiner ce qui pourrait être fait, en plus, pour la cybersurveillance, un mot sur l'arsenal existant.
Alors déjà, il y a plusieurs lois qui sont arrivées depuis 10 ans, quasiment une par an, pour essayer de sécuriser des bouts d'Internet, que ce soit les ordinateurs, la manière de rentrer dedans, l'équivalent d'une perquisition à distance, que ce soit le fait de pouvoir travailler sous pseudonyme, notamment dans le cadre des enquêtes contre la pédopornographie, le fait de demander une coopération judiciaire avec les autres pays, parce que très vite, avec Internet, on va être dans l'international, on va être forcément même parfois dans le planétaire.
Vous avez dit des bouts d'Internet, ça veut dire que ça passe, c'est morcelé, c'est parcellaire.
Je dis des bouts parce qu'encore en 10 ans, on fait à peu près une dizaine de lois, vous vous doutez bien qu'on a empilé en fonction des circonstances, un peu comme quand on s'était inquiété de la musique et du piratage de la musique, on a fait une loi qui s'appelle Adopi et qui a sanctionné le téléchargement. Il s'avère que quand quelques temps après, on s'est aperçu que les gens consommaient par streaming, la consommation en continu grâce à les hauts débits qui ont progressé, vous voyez bien que la loi initiale devenait un peu caduque, en tout cas ringardisée. Donc on l'a fait par bout, ce qui fait que c'est pas totalement satisfaisant parce qu'on court après les problèmes qu'on a rencontrés.
Nicolas Arpagian, il a été dit cette semaine que les terroristes n'avaient pas besoin d'Internet pour agir et se radicaliser. Vous êtes d'accord ?
Alors en tout cas, Internet est un formidable moyen d'information pour des gens qui cherchent justement à se renseigner sur un sujet, que ce soit sur une cause politique ou sur des modes opératoires pour se rendre dans certains pays dans lesquels ils pourraient justement mener leur combat. Donc ce qui est certain, c'est que c'est un lieu de coalition et c'est un lieu qui permet à des gens qui ont des centres d'intérêt communs mais qui sont répartis de manière diffuse sur un territoire, de rentrer en contact, que ce soit pour une passion tout à fait légitime, mais également quand ce sont des activistes disséminés. Et c'est là où effectivement c'est un outil qui s'impose à eux.
C'est l'outil préféré de ce qu'on appelle les nébuleuses terroristes. Accroître la cybersurveillance, puisqu'on vient de faire le diagnostic, ça voudrait dire quoi concrètement aujourd'hui de faire plus ?
Alors en tout cas, ce qu'il faut, c'est disposer de moyens, pas tellement forcément de moyens techniques. Pourquoi ? Parce que c'est pas tout d'avoir une surveillance de l'intégralité des réseaux. Par exemple, les Chinois l'ont mis en place avec un système qui s'appelle le bouclier d'or. Le bouclier d'or, qu'est-ce que c'est ? C'est une base de dictionnaire qui filtre alors un certain nombre de mots-clés, alors qui vont évidemment sur le Tibet, la secte Falun Gong et autres, et puis des mots qui sont adaptés en fonction de l'actualité. Évidemment, ça ne sert à rien dès lors que les gens que vous écoutez, en quelque sorte, vont utiliser des mots de code. Donc on voit bien qu'on ne peut pas utiliser l'automatisation de la surveillance comme système permanent, parfait de surveillance. Il faut de l'investissement humain. Et ça, c'est des éléments très concrets d'un point de vue budgétaire, avec des analystes de chair et de sang qui cherchent à comprendre justement ce qui se passe sur ces réseaux.
Il faut du personnel. Est-ce que les grandes firmes telles que Google, Facebook, Twitter et tous les autres sont prêtes à collaborer, elles qui mettent à la disposition de tout le monde des moyens d'expression, des moyens de recrutement, des moyens de propagande ?
Surtout qu'elles ont, effectivement, elles mettent à disposition des outils de diffusion, mais elles ont également elles-mêmes une très grande expertise. En quelque sorte, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale où un directeur commercial de Google, celui qui commercialise l'espace publicitaire sur Google et qui va donc raffiner toute l'information que vous lui donnez avec votre téléphone Android lorsque vous utilisez Chrome, le navigateur ou votre messagerie Gmail, voire vous vous déplacez grâce à Google Maps, lui, il va utiliser l'ensemble de ces informations qu'il va croiser de manière à commercialiser ça auprès d'annonceurs.
Vous voulez me dire qu'il est plus équipé qu'un directeur du renseignement ?
Certainement, parce que lui, il va pouvoir surveiller les gens en permanence et conserver les archives, et en plus de le recouper sur des millions de personnes. Donc vous vous doutez que lui dispose d'une expertise. Il serait important qu'il coopère davantage avec les services de sécurité de pays démocratiques qui appliquent des lois votées par deux parlementaires et élus démocratiquement.
Je traduis ce que vous êtes en train de vous dire. Enfin, c'est très clair, mais en même temps, vous dites qu'il faudrait qu'il coopère et il ne coopère pas.
En fait, il coopère de manière disparate. Vous voyez, lorsque, par exemple, le compte Twitter d'un commandement américain au Moyen-Orient a été piraté, il a fallu moins de 40 minutes pour rétablir ce compte Twitter au profit du ministère américain de la Défense. J'ai souvenir d'une vidéo sur YouTube qui présentait l'assassinat du policier dans le cadre des postes juste après les attentats contre Charlie Hebdo. Il a fallu une semaine pour que YouTube accepte de retirer cette vidéo intégrale non floutée de l'assassinat de ce policier. Donc on voit que selon qui demande, la célérité est plus ou moins efficace.
Si les États-Unis demandent, c'est plus simple. Une dernière question et très vite. Bernard Cazeneuve va se rendre aux États-Unis, le ministre de l'Intérieur, pour évoquer ces questions. David Cameron, Angela Merkel l'ont déjà fait. Pourquoi l'Europe n'avance pas unie sur ces affaires-là ?
Chacun négocie ses intérêts. Alors en fait, c'est également la responsabilité, celle de Barack Obama, qui ne tient pas à voir l'Europe comme un ensemble cohérent, économique, qui pourrait d'ailleurs peser face à ces acteurs du net que sont les Google, Facebook et autres Twitter. Et au contraire, il gagne à nous séparer. Notre faute, notre erreur, c'est d'accepter cette division et d'aller négocier un à un face à Monsieur Obama. Et effectivement, nous sommes d'autant plus faibles, sachant évidemment que les Britanniques, les Néerlandais ont des relations privilégiées avec les États-Unis que nous n'avons pas. Et donc, nous ne pouvons même pas jouer de notre poids économique, qui est celui du continent européen, puisque nous arrivons chacun en force dispersée.
Est-ce que les États-Unis n'ont pas intérêt à ce qu'on aille les voir de façon séparée, divisée, Merkel de son côté, Cameron du sien, Cazeneuve tout seul ?
Certainement, parce qu'il entretient cette division, il entretient cette pluralité éventuellement de discours, puisqu'on ne sait pas dans l'intimité de leur conversation le détail d'informations qu'il leur délivre, la profondeur de la coopération qu'il leur promet. Et donc évidemment, l'Europe voit bien que les uns les autres sont traités de manière certainement inégale, différente, et ça affaiblit les uns et les autres au profit d'une puissance économique et politique nord-américaine qui s'affirme un peu plus.
Un mot quand même, à chaque fois qu'on touche à Internet, il y a des levées de boucliers des représentants de la nouvelle économie, les élites mondialisées, comme disait Chevènement il y a quelques années. Pas touche à Internet, c'est de l'angélisme ou finalement c'est la réalité. Toucher à Internet, le fliquer, plus de moyens, c'est inefficace avec la passoire qui est devenue la toile.
On peut pas se contenter de cette logique de passoire. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire à part entière, comme l'air, la terre et la mer, et donc on ne pourrait pas considérer qu'il y a un territoire où on parle d'économie, de politique, de droit et de liberté de communication et qui soit affranchi de toute règle, ce n'est pas envisageable.
Nicolas Arpagian, directeur scientifique de l'Institut des hautes études de la sécurité, merci pour votre efficacité. Dans un instant, le sociologue Jean Viard nous parle du vivre ensemble et de nos fractures sociales.
Europe 1, C'est arrivé cette semaine, David Abiker.
Les événements des derniers jours peuvent-ils changer la société française, les rapports entre les gens, le regard que les Français portent les uns sur les autres? Bref, fabriquer ce qu'on appelle, et j'ouvre d'immenses guillemets, du vivre ensemble, je ferme ces immenses guillemets. Je pose ce matin la question à Jean Viard, chercheur et sociologue, auteur d'un nouveau portrait de la France. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
On est ravis à Europe 1 de vous avoir autrement qu'au téléphone dans ce studio, car le plus souvent, vous êtes dans vos terres du Sud. Jean Viard, j'aimerais d'abord votre regard de sociologue sur ces manifestations monstres, leurs slogans, tout ce qui est arrivé le week-end dernier et qui se poursuit un peu cette semaine, à la suite évidemment des assassinats et des prises d'otages.
Si vous voulez, c'est un immense mouvement à la fois de colère, parce qu'au fond, on accepte qu'il y ait des attentats partout, on le sait tous les jours, mais pas chez nous. Donc là, il y a une immense colère. Et puis, il y a une solidarité, parce qu'évidemment, parce qu'en plus, ces gens, on les connaissait, il n'y a pas que Charlie, on connaissait Wolinski, on connaissait Cabu. Donc, je veux dire, bon, tout ça fait qu'au fond, on est proche de ces gens.
Ceux-là, vous les connaissiez, ceux qui ont manifesté, ceux qui se sont mobilisés, parce qu'ils sont 3,7 millions hein, partout en France, ça, c'est une matière sociologique, 3,7 millions.
Il y a un événement historique qui se passe dans un pays à un moment où la population, au fond, et en plus très calmement, très gentiment, c'était pas des manifestations violentes, c'est des manifestations tristes, il y a beaucoup de gens qui pleuraient. Donc je crois qu'il faut se dire ça. On était émus, on était malheureux, et en même temps, on était contents d'être ensemble. Et on avait l'impression d'écrire quelque chose.
Justement, Jean Viard, vraiment, c'est le sociologue que j'interroge. Quand on est face à un moment de la vie française comme celui-là, quels détails, quels signaux, quels indices, à quoi on est attentif? Vous avez une boîte à outils, vous avez votre regard de sociologue. Qu'est-ce que vous observez, vous?
Mais si vous voulez, il y a les deux parties, c'est-à-dire il y a à la fois l'immense majorité dans son émotion et dans son désir, au fond, d'être dans nos valeurs. On a beaucoup cité Voltaire, c'est très bien. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, ou ces enfants qui ne veulent pas, ou ces enseignants qui disent « je suis désarçonné ». J'entends leur désarroi. Il me surprend un peu parce que le fait qu'une partie de une petite partie de la jeunesse immigrée soit en périphérie refuse, il faut l'entendre aussi. Je veux dire, quand il y a 1000 ou 300 ou 1500 jeunes qui partent faire le djihad en Syrie, attendez, il y en a combien qui n'ont pas le courage de le faire, qui ne le font pas? Ça veut dire qu'à un moment se développe dans une partie de la jeunesse une espèce d'utopie. Il faut comprendre aussi que, moi je disais, c'est peut-être un peu provocateur de dire le djihad, c'est un peu l'Erasmus des banlieues. Mais il faut entendre ces choses.
L'Erasmus des banlieues.
C'est-à-dire, à un moment, c'est quoi l'horizon qu'on propose à une petite partie de notre société? Et donc, bien sûr, chacun est responsable de lui-même et de ses actes, je veux dire, bien entendu. Mais on crée des situations dans les choses qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a des choses de police, etc. C'est pas mon sujet. Il y a de mettre les mots sur les choses. Nous sommes face à un fascisme issu du salafisme international. On voit pas pourquoi nos soldats iraient se battre à certains endroits et pourquoi ils pourraient pas venir chez nous. Les avions, ils vont dans les deux sens.
Mais ça, ça questionne la société française ou les micro-sociétés. Ça les questionne comment? Ça les transforme comment?
Mais c'est-à-dire que la question, c'est comment on recrée des grands symboles du fait qu'on appartient tous à la même société. Et ces grands symboles, depuis un certain temps, on les a enlevés. On a supprimé pendant le service militaire. J'étais pour, je suis 68 ans. Mais je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû refaire un grand service civique? Peut-être sur d'autres modalités, pour qu'à un moment, tout le monde donne du temps à la société.
Le service civique va fêter ses 5 ans dans quelques jours.
Oui, mais il
n'est
pas obligatoire. Oui. Il pourrait être obligatoire, quitte à ce que ça soit 3 fois 2 mois, 2 fois 3 mois ou 6 mois, dans l'humanitaire ou dans le militaire. Il faut créer des moments où toute la génération des jeunes appartiennent au même système. Quand on dit il faut un uniforme dans les collèges, pourquoi pas?
C'est un ex-68ard qui dit ça.
Oui, mais je dis ça parce qu'il y a besoin de symboles et de signes du fait qu'on appartient à la même société. Il y a une des choses que j'avais proposé il y a quelques années, qu'à 16 ans, tous les jeunes puissent voyager une semaine en France par le TGV, pour aller en auberge de jeunesse, pour visiter Paris. Il faut à un moment...
Il y a beaucoup de choses dans ce domaine qui sont déjà faites par l'éducation nationale, les associations de parents, les classes vertes, les classes de neige, etc. Ça existe depuis des années et des années.
Oui, mais pour une petite partie de la jeunesse. C'est pas pareil que de dire, tous les jeunes ont droit à une semaine de voyage gratuit en TGV à 16 ans pour visiter la France. Il faut faire du nous. Il faut le construire.
C'est ça le fameux vivre ensemble, parce que si on scrute l'actualité des dernières années, on avait plus le sentiment que les Français ne se supportaient plus les uns les autres, qu'ils avaient une envie de vivre ensemble.
Oui, mais ça, heureusement, dans ce qui s'est passé là, au fond, le cœur de la société s'est rassemblé. On s'est rendu compte de l'ineptie d'un certain nombre de débats. Enfin, quand on voit la violence du débat politique dans ce pays, sous le président Sarkozy comme sous le président Hollande, où on traite ceux qui sont au pouvoir comme si c'était les derniers des nuls. S'ils sont arrivés là, ils sont pas. On peut être en désaccord absolu. Enfin, on peut les respecter. Mais ça vaut aussi pour les intellectuels. Beaucoup d'intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer, les intellectuels, aujourd'hui ? Pisani, mon ami Pisani, il avait organisé la décohabitation dans les campagnes dans les années 60 parce qu'il fallait donner de l'autonomie aux jeunes couples par rapport aux vieilles familles. Pourquoi on fait pas ça dans nos banlieues ? Vous croyez pas que la faiblesse sentimentale, comment on vit une vie sentimentale dans les banlieues quand on est logé dans des espaces où on est nombreux, quand on n'a pas de studio parce qu'on n'est pas étudiant ? Dans nos banlieues...
C'est vrai que vous allez très loin, vous allez dans les sentiments et les relations interpersonnelles.
Mais dans nos sociétés, là où on a le plus changé, c'est dans l'interpersonnel. Juste deux chiffres. 57% des bébés naissent hors mariage. C'est bien nos choix individuels les uns et des autres. Un mariage sur deux est déferlé en 5 ans dans les grandes villes. Donc ça aussi, c'est des choix privés.
Vous me disiez qu'il y a un siècle, on faisait l'amour 1000 fois par an ou 1000 fois dans une vie et 7000 aujourd'hui, c'est ça ?
L'amour,
1000 fois par an, c'est pas évident.
Non, dans une vie, nous on fait à peu près 7-8 fois, mais surtout on fait 2 enfants, on en fait 6 ou 7. Oui. Donc ça veut dire que le relation érotique, on a érotisé la société. J'allais dire, on a tous les rapports érotiques de Louis XIV. Lui, on a appris qu'il avait plein de jeunes personnes comme ça, mais dans nos familles à nous, nos grands-parents, ils n'en avaient pas de plein de jeunes personnes comme ça. Il n'y avait pas d'érotisme populaire. On a démocratisé l'érotisme populaire. On l'a survalorisé peut-être.
Et vous dites qu'une partie de la population est à part.
On est exclu. Il faut démocratiser ça. Donc je dis oui.
Là, c'est le 68-art qui parle.
Mais il faut dire, faut dire à un jeune qui va dans une école de la deuxième chance, viens à l'école de la deuxième chance, tu auras un studio en ville. Ben, ça augmente l'intérêt de l'opération.
Ah oui.
Il y a le premier mouvement dans cette génération, c'est le FN. Donc c'est bien l'extrême droite, le premier mouvement dans la jeunesse. Qu'est-ce que la France a apporté dans la mondialisation en termes de valeurs ? L'Europe, c'est le pays où on a compris l'importance de l'art de vivre, on a compris la place des femmes, on a compris le rapport à la nature. Et on ne parle que d'économie. On a apporté des choses à la mondialisation. Il faut se battre sur ces valeurs-là pour que d'un coup, les gens, à nouveau, aient un rêve.
Jean Viard, merci pour ce conseil, inventer un nouveau récit de l'avenir. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Nouveau portrait de la France. Merci à vous Jean Viard.
Merci.
Elle ne change pas la société, mais au moins elle adoucit les mœurs. La musique à suivre, Juliette Nourédine, qui se produit sur scène dans une semaine avec un orchestre de policiers.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine, David Abiker.
Elle chantera au Châtelet le 23 janvier prochain. Elle y sera évidemment entourée de ses hommes, ses musiciens, de musiciens surprises aussi, elle va nous raconter ça. Et puis évidemment, elle interprétera très probablement des chansons de son dernier album, mais dans un décor inattendu. Bonjour Juliette.
Bonjour David.
Cet album, il s'appelle Nour, c'est tiré de votre nom de famille, Nourédine. Ça veut dire lumière.
Alors Nour veut dire lumière, oui. Et Nourédine veut dire lumière de la foi. Et comme je ne suis pas croyante... C'est comme ça. J'ai enlevé la foi, j'ai gardé la lumière.
Pourtant, l'époque n'est pas spécialement lumineuse en ce moment.
Non, on ne peut pas dire. On ne peut pas vraiment dire. Elle n'est pas très, finalement, religieuse non plus. Parce que je ne connais pas de religion qui incite à tuer des gens, on va dire. Il n'y en a aucune. Alors, je crois qu'il va falloir changer de prétexte. Parce que Dieu n'a jamais demandé, quelque nom qu'il porte, n'a jamais demandé qu'on tue en son nom, je crois bien.
Juliette, si je vous ai invité, c'est aussi en raison d'un concert que vous allez donner au Châtelet, une grande salle le 23 janvier prochain, grosse salle, salle de concert. Vous y serez avec votre grand piano, toute seule, ou alors vous serez avec vos hommes, comme Barbara était avec ses hommes.
Je suis avec mes hommes, je suis avec mes 6 hommes, mes musiciens, je ne vais pas dire mes musiciens, les musiciens qui m'accompagnent depuis, pour la plupart, depuis 20 ans quand même. Hein, donc
ça
c'est
fait une bande, quoi.
Ça fait une espèce de sorte de bande de potes. C'est très pratique de travailler aussi avec des gens qu'on connaît bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Ils sont partie prenante aussi dans la mise en scène, c'est pas juste des musiciens derrière leur partition, ils sont pas interchangeables. C'est même plutôt très compliqué quand il y en a un qui peut pas assurer un concert, on est parfois obligé d'annuler tout simplement.
Parce qu'ils ne travaillent pas qu'avec vous, moi je pensais que vous étiez exclusive.
Quand ils sont en tournée avec moi, ils me donnent un petit peu la priorité, ce qui me fait très plaisir, mais je les soupçonne de me donner la priorité parce qu'ils s'amusent beaucoup avec moi.
Alors qu'est-ce qui va se passer au Châtelet ?
Alors au Châtelet, il va se passer que je vais avoir des invités un petit peu surprises, alors je vous... Toujours quand on joue à Paris, on essaye de faire un truc un peu exceptionnel. Là, j'avais pas d'idée particulière pour inviter des camarades chanteurs ou quoi. J'ai invité des musiciens en plus. Comme le spectacle se déroule En fait, c'est une espèce de joyeuse fantaisie autour d'un fait réel qui est que j'ai failli ne pas faire de chanson. J'ai failli devenir flic quand j'avais 18 ans. Je savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Et comme mon grand-père était commissaire, commissaire de police, qu'il a été commissaire divisionnaire, etc., il avait suggéré que je pouvais tout à fait rentrer dans la police, qu'il m'aurait sûrement pistonné pour avoir un bon poste. Ce que je n'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que pour être inspecteur, il fallait déjà courir le 100 mètres en moins de 1 minute 30, je crois. Ce qui était impossible. Et grimper à la corde. Il fallait grimper aussi à la corde. Et donc, comme c'est super pas mon truc, j'ai carrément renoncé dès le dossier d'inscription. Et c'est comme ça que le quai des Orfèvres y a gagné ce que la chanson française y a perdu.
Mais ce qui est incroyable, il y a une conjonction de dates, ça va donner à votre spectacle une symbolique un peu particulière.
Alors, d'autant plus que mon grand-père s'appelait Lassène Noureddine, qu'il est arrivé d'Algérie dans les années 20 et qu'il a fait ses études tout en l'avant des tramways. D'abord, il a commencé à Alger pour passer son bac. Et ensuite, il est arrivé en France et il est rentré dans la police, il est rentré comme inspecteur puisqu'il avait le baccalauréat. Et puis, il a continué ses études, il a passé une licence de géographie, il est rentré à Sciences Po, figurez-vous. Et il est rentré comme ça après commissaire.
Ce qui est incroyable, c'est que vous allez faire le 23 janvier une sorte d'union nationale à votre sauce, Juliette.
J'espère, ouais, je le souhaite.
Juliette, avec une trentaine de policiers.
Et donc avec une trentaine de policiers sur scène,
musiciens.
qui sont la musique de la police de Paris, la musique des gardiens de la paix de la police de Paris.
Voilà. Ça n'a rien à voir avec la police, encore que il y a une police des bonnes manières. Ça s'appelle les doigts dans le nez.
Oui.
Pour autant, je le fais pas en secret dans le noir, et l'on me surprend parfois avec ou sans mouchoir sur scène à la télé, égaré quelques doigts dans mon nez.
Juliette, il y a quelque chose qui m'a frappé chez vous. Vous avez un côté libertaire, vous vous revendiquez de gauche. Et en même temps, vous tenez à vos racines, à vos décorations, à ce grand-père dans la police, comme à la prunelle de vos yeux.
Donc, c'est antinomique.
Justement, c'est la synthèse que vous faites. Il y a des gens qui ne font pas cette synthèse entre l'institution, l'ordre, et puis les idées de gauche ou très à gauche. Vous la faites.
Oui. Vous parlez de, par exemple, de mes décorations, des choses comme ça.
Bah, c'est la Légion d'honneur.
C'est la Légion d'honneur.
Vous ne l'avez pas refusée.
Je l'ai pas refusée. J'en suis fière, mais en même temps, je ne crois pas être en mesure de la refuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la République fait un honneur à ma carrière, à mon travail. Moi, je trouve ça vachement waouh, quoi. La France qui dit, Juliette Noureddine, on vous remet la Légion d'honneur. En plus, moi, je suis d'une famille, donc mon grand-père, vous avez compris, il aimait beaucoup les décorations. Il était rigolo avec ça. Et donc, bon, alors, ça, c'est une tradition familiale, sans doute, la médaille.
On va finir notre conversation avec la dernière chanson de l'album. C'est la chanson qui s'appelle Nour, La Lumière. C'est une chanson où vous expliquez que vous voulez décider du jour de votre mort, si un jour vous êtes condamné à quelque chose. C'est un sujet d'actualité. Comment vous est-il venu une idée pareille pour une chanson ?
Comme je l'explique, elle m'est venue à cause d'une phrase, grâce à une phrase qui a été prononcée par Jean-Luc Mélenchon au moment de l'élection présidentielle, de la campagne, où on lui posait la question. Quelle était sa position sur le problème de la fin de vie, la question de la fin de vie. Et il a dit « Je veux avoir le droit d'éteindre moi-même la lumière ». J'ai trouvé que c'était une phrase de poète. Je l'ai donc reprise à mon compte en disant « Voilà un sujet de chanson épatant ». La chanson au début s'appelait « Lumière ». Je me suis dit « C'est bête d'avoir cette lumière dans mon nom et de ne pas s'en servir ». En plus, c'est le mot arabe pour désigner la lumière. C'est fait exprès. Voilà, je veux dire, sans doute mon grand-père est arrivé en France avec plein de volonté d'ambition et de choses comme ça, et il est devenu un homme bien, il a été un homme bien toute sa vie.
On va l'écouter, la chanson, pas votre grand-père, mais la chanson, on va l'écouter tout de suite. On va se quitter sur cette chanson, chère Juliette, et pendant qu'elle part doucement, parce que c'est une berceuse, je vais rappeler tout doucement que vous serez le 23 janvier au Théâtre du Châtelet, entouré de vos musiciens et d'une escouade de 30 policiers qui jouent de la musique aussi, et que votre dernier album s'appelle Nour et qu'il est très réussi. Au revoir Juliette.
Merci David, à bientôt.
J'avais en ce temps-là des leçons à apprendre, de l'encre sur les...
J'ose à peine perturber la chanson de Juliette. Vous la retrouverez en plus long, Vénard, ce soir chez Thierry Lecan et en live dès 23h. C'est arrivé cette semaine. Juliette, c'est fini. On se retrouve demain avec plein d'autres invités. Si vous avez pris l'émission en route, direction europe1.fr, juste après le journal de 10h, vous allez retrouver Michel Field et Olivier Duhamel pour Mediapolis. Bonjour mes compères.
Bonjour David Abiker.
Salut David.
Et aujourd'hui notre dossier...
Après tous ces événements, que faire ?
Merci messieurs, bonne journée à vous, bonne émission. Et puis c'est à vous chère Sophie, à demain.
Merci, c'était David Abiker sur Europe 1.